Et nous continuons donc nos méditations dans les 10 commandements. Et aujourd'hui, nous méditons le 8e commandement qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre, de vol ». Ah oui, ça avance, hein ? « Tu ne commettras pas de vol ». Je vous rappelle le contexte. Le texte que nous allons relire se trouve donc en Exode chapitre 20. C'est un des deux endroits où se trouvent les 10 commandements. Et donc le contexte d'Exode 20, c'est le peuple des Hébreux se trouve au mont Sinaï après avoir été libéré de l'esclavage. Donc c'est un peuple libéré de l'esclavage que Dieu donne ses 10 commandements pour vraiment vivre cette liberté. Et il reçoit ces paroles de la main même de Dieu. Donc je relis les versets 2 à 15. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Alors, tout d'abord, il faut essayer de voir tout simplement ce qu'il y a derrière ce commandement, tu ne commettras pas de vol. Et il faut découvrir ce qu'il y a derrière ce commandement. Alors, en premier lieu, il faut dire que ce commandement suppose qu'il est normal de posséder des choses. Ce commandement suppose la propriété. C'est ça notre premier point. Ce commandement suppose qu'il est normal de posséder des choses. Alors, ça peut être des meubles. On possède tous des choses. Ça peut être des meubles, une maison, une entreprise, enfin, quelque niveau que ce soit, on possède quelque chose. Ce que j'ai est le reflet de ma personnalité. J'ai travaillé, j'ai mis de côté, j'ai acheté, ou bien j'ai hérité de ma grand-mère, tel objet, voilà. Derrière l'objet, il y a une personne, il y a une histoire. Et c'est pour cela que les victimes de cambriolage sont si choquées. C'est pas l'acte, elles n'ont pas été meurtries, mais elles sont choquées intérieurement. Les gens pourront sans doute s'acheter un autre portable que les voleurs ont volé. Les assurances vont sûrement rembourser une grande partie du cambriolage. Mais rien n'effacera le sentiment d'avoir été comme meurtri personnellement, d'avoir été agressé, d'avoir été méprisé, d'avoir été abusé. Parce que s'attaquer au bien d'une personne, c'est s'attaquer à la personne. Que cette personne soit riche ou que cette personne soit pauvre, d'ailleurs. Et on peut dire aussi que ce sont d'ailleurs les personnes les plus modestes qui sont les plus souvent victimes de vols, parce qu'elles se protègent moins. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un dispositif pour protéger les biens d'une famille. Une famille pouvait être amenée à vendre la terre de ses ancêtres pour toutes sortes de raisons, suite à une sécheresse, suite à une invasion de criquets, de sauterelles. On en parle dans plusieurs endroits de la Bible, dans le livre de Joël. Suite à une mauvaise gestion aussi, suite à une injustice subie. Donc, une famille pouvait être amenée à vendre la terre de ses ancêtres. Mais la loi de Moïse interdisait de vendre cette terre à perpétuité. Et tous les 50 ans, l'année du jubilé, les terres devaient revenir à leur propriétaire d'origine. Et de cette façon-là, toutes les familles pouvaient prendre un nouveau départ. Et personne ne pouvait devenir propriétaire de tout. Hein? Il n'y avait pas de possibilité de concentration immobilière, comme on dit aujourd'hui. Hein? Alors on ne sait pas si cette loi a été vraiment et réellement appliquée. Probablement pas très longtemps. Hein? Mais il est clair que Dieu, dans sa parole, avait déjà anticipé les lois sociales les plus avancées. Et que l'objectif de ces lois, de cette loi du jubilé, est clair. Tout le monde a accès, doit avoir accès à la propriété. Alors, derrière ce commandement, sur le vol, il y a la notion de propriété, on vient de le dire. Et puis, il y a un deuxième élément fondamental, la valeur du travail. On peut citer l'apôtre Paul, Éphésiens 4, 28, qu'on avait lu et étudié un peu quand on a fait l'épître aux Éphésiens, et Éphésiens 4, 28, que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains, pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Donc, on sait bien que le travail peut être pénible. Certains parmi nous ont un travail pénible. Mais le travail est mis en valeur dès la première page de la Bible. Ça veut dire que ce n'est pas une punition en soi, ce n'est pas le fruit du péché, de la séparation de l'homme avec Dieu. C'est une réalité humaine incontournable. Ça fait partie de notre humanité. Nous sommes faits, entre autres, mais nous sommes faits aussi pour travailler. Et il y a différentes formes de travail. Et il y a des travaux rémunérés, il y a des travaux qui ne le sont pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'oisiveté n'est pas une valeur biblique. C'était une valeur dans l'Empire romain, chez les Grecs, où on était content quand on ne travaillait pas et quand on faisait travailler les esclaves. Mais ça n'a jamais été une valeur pour le peuple juif ou pour les chrétiens. Alors, le respect du bien d'autrui, la valeur du travail. Et puis, derrière ce commandement, il y a un troisième élément. Derrière ce commandement, c'est l'importance de la générosité. Paul le dit dans le texte qu'on a cité. Que le voleur cesse, donc en Éphésiens, toujours chapitre 4, que le voleur cesse de dérober, bien. Qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Donc là, nous abordons la valeur positive, la version positive du commandement. Jésus a dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On en reparlera à la fin de la méditation. Mais maintenant, j'aimerais explorer avec vous différents types de vols. Tu ne commettras pas de vol, d'accord. On a vu l'arrière-plan. Mais maintenant, voyons les différents types de vols. On pourrait en ajouter certainement. Mais quand même, plusieurs grandes rubriques. Alors d'abord, bien sûr, on pense à ça tout de suite quand on parle du vol. Et voilà, si tu veux passer la diapositive suivante, il y a l'argent, les différents types de vols. Tout d'abord, on pense à l'argent, le vol de l'argent ou des objets. On a tiré un mot tout à l'heure. Des enfants qui volent, ça commence tout de suite, ça commence très tôt. Des enfants qui volent dans le sac à main de leur maman, ça existe, on le sait bien. Des gens qui volent leur entreprise, ça existe, on le sait bien. Des gens qui volent l'église, ça existe aussi, on le sait bien. Mais il y a bien d'autres sortes de vols. Il y a le recel d'un bien volé. Donc, on vous propose une montre. Ça arrive, certains endroits plus qu'à d'autres. On vous propose une montre, on vous propose un portable, on vous propose une voiture à un prix, alors défiant toute concurrence. Là, il y a une petite lumière qui doit s'allumer, ça doit faire tilt. Tiens, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je connais l'origine de cet objet? Voilà ce qu'on doit se demander. C'est trop beau pour être vrai. Et donc, si vous achetez un objet volé, c'est bon de rappeler ça, vous êtes complice. Si vous l'achetez sciemment, on a des possibilités de savoir que c'est pas net ce qui a été acheté. Si vous achetez un objet volé, vous êtes complice du voleur et aux yeux de la loi, vous êtes coupable du délit de recel. Alors il y a d'autres choses, bien sûr. Il y a d'autres choses, d'autres formes de ce vol. Il y a le travail au noir. Il y a la fraude à la douane. Alors il y a aussi la fraude sur la déclaration d'impôt, puisque c'est un peu l'époque de l'année où on est sollicité dans ces choses. Alors là aussi, on peut dire beaucoup de gens autour de nous, dans notre société, disent « voler l'État, ce n'est pas voler ». Il n'y a pas de mal à frauder, parce que c'est l'État qui est lésé, et l'État nous vole déjà tellement d'argent. Et l'État a plein de fric, soi-disant. Et puis il fait n'importe quoi avec. C'est ce qu'on entend. Alors il est intéressant de constater ce qu'a dit Jésus. Jésus a dit de payer à l'État ce qui lui revenait. Rendez à César, l'empereur, donc l'État romain, rendez à César l'empereur ce qui est à César. Rendez à l'État ce qui est à l'État. Et ces empereurs romains du temps de Jésus n'étaient pas des enfants de cœur, comme on dit. Auguste, Tibère, Caligula, Claude. Leur luxe, leur cruauté, leur mépris de la personne humaine était proverbial. Et quand les apôtres Pierre et Paul ont écrit à leur tour qu'il faut payer des impôts à l'empereur, c'était Néron, c'était le successeur de Claude qui régnait. Néron. Néron était empereur. Néron avec sa mère Agrippine et tout. C'était un monstre, ce Néron. Mais l'autorité de l'État, même injuste, est généralement mieux que l'anarchie, dit la Bible. Et aujourd'hui, certains pays qui vivent dans l'anarchie le savent, et nous le voyons dans les journaux télévisés. L'autorité de l'État, même injuste, est quand même mieux que l'anarchie. Soyons-en sûrs. Et donc le chrétien paie ses impôts par motif de conscience. Et non pas parce qu'il a peur d'être pris en flagrant délit de vol. Or, la France est un pays avec un très fort système de protection sociale. Et nous en bénéficions tous. Et nous pouvons dire merci au Seigneur. Il y a des hôpitaux, il y a des routes, il y a des écoles, il y a de l'aide pour les familles nombreuses, pour les personnes âgées. Alors, on trouve toujours qu'il n'y a pas assez. Si on va ailleurs, on voit que vraiment, on est privilégié. Mais, et on est d'accord avec ça. Mais il faut se rappeler que ça a un prix. Et le prix, ce sont les prélèvements sociaux. Et quand on travaille au noir, parce que c'est plus avantageux, alors on est en train de voler ceux qui, eux, paient. Et on veut profiter, bien sûr, de la solidarité nationale. On veut vivre dans un pays structuré. Mais on ne veut pas payer notre part dans ce cas-là. C'est pas juste. C'est pas juste. Alors, dans le même genre d'idée, plus proche de nous, on peut mentionner le piratage. On peut mentionner le non-respect du copyright. Soit des chants, soit des... on a un système de copyright des chants et on essaye d'honorer ceux qui ont fait ces chants. Mais il y a les chants, il y a les films, il y a les logiciels, il y a les vêtements de marque. Quelqu'un a travaillé pour créer un chant, pour créer un film, pour créer un logiciel, pour créer un vêtement, dessiner un vêtement. Il est normal qu'il soit correctement rémunéré pour ce travail. Il le sera par le pourcentage qu'il touchera sur les produits vendus. Mais si le CD est piraté, eh bien l'auteur est privé de son dû. C'est une forme de vol auquel nous avons tendance parfois sur laquelle nous avons tendance à fermer les yeux. Et que dire des jeux d'argent On fait rêver des millions de gens avec les jeux d'argent. Souvent des gens modestes. C'est les gens modestes qu'on fait rêver, parfois, surtout. On prend leur argent, car ils vont... On leur prend, c'est un vol, parce qu'ils vont perdre à coup sûr. Et on donne une partie des résultats à quelques-uns seulement. Ça, c'est évident. 100% des perdants ont tenté leur chance. Donc c'est un vol. C'est une escroquerie tout à fait légale, c'est l'État qui le fait parfois, souvent. C'est du vol tout à fait légal, mais c'est du vol. Et on peut en vouloir à ceux qui créent des besoins toujours plus prestigieux, toujours plus chers. Ils sont coupables, eux aussi. Ces gens ciblent parfois exprès des populations qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et ils les poussent à la jalousie. Ils les poussent aussi donc au vol et au trafic. Mais la Bible dit que la pauvreté n'excuse pas le vol. Le remède à la pauvreté, ce n'est pas le vol, c'est le travail, puis la solidarité, le partage. Et Jésus a dit, tout ce que vous voudriez que les gens fassent pour vous, il y en a des choses, faites de même pour eux. Cela ne laisse pas beaucoup de place pour le vol, vous êtes d'accord avec moi. Alors nous pouvons voler autre chose que de l'argent, nous pouvons voler le temps, D'ailleurs, les gens disent, le temps, c'est de l'argent. Quand vous êtes payé pour travailler, que vous vous arrangez pour faire traîner les choses, pour ne rien faire, c'est du vol, c'est le vol du temps. Quand vous discutez au téléphone avec les amis, ou sur le, plus au téléphone, c'est sur le portable, et au lieu de vous occuper de votre travail, là devant vous, de votre ordinateur, de votre client, de votre malade, c'est du vol de temps. Mais on peut avoir comme principe donc de respecter le temps de l'employeur. Alors, on peut citer l'argent qu'on peut voler de différentes façons. On peut voler du temps, on l'a dit, mais on peut aussi priver quelqu'un d'affection. On peut priver d'affection ceux qui ont droit autour de nous. Et l'apôtre Paul parle au couple. Il parle au couple et il dit « Ne vous privez pas l'un de l'autre. Votre conjoint, vos enfants ont droit, si on va plus loin dans cette idée, ont droit à votre affection. Votre conjoint, mais aussi vos enfants ont droit à votre affection. » Si vous faites exprès de les négliger, soi-disant, à cause du travail, ou du sport, ou d'un loisir personnel, ou d'une autre obligation, quelle qu'elle soit, vous commettez peut-être une forme de vol. Le temps que vous devriez leur accorder, c'est-à-dire votre présence, votre attention, votre affection, eh bien, ils en sont privés. Par votre choix. Donc, on leur vole quelque chose. Et on pourrait là parler d'un vol affectif. Et beaucoup de gens souffrent dans les couples et même dans les familles pastorales. Alors, il y a une autre forme de vol, c'est le vol du cœur. Et il y a une expression biblique qui va nous aider, la tromperie, une certaine forme de tromperie. Il y a une expression biblique qui décrit le fait de tromper une personne par le terme « lui voler son cœur ». Alors, je vais rappeler l'histoire de Genèse 31, 20 à 26. C'est l'histoire de Laban et de Jacob et des filles de Laban, des femmes de Jacob, Léa et Rachel. Jacob est parti avec les deux filles de Laban. Ce n'est pas une histoire très glorieuse. Léa et Rachel. Et il est parti avec une partie importante de ses biens. Et il a caché son intention de fuir. Il a trompé Laban. Genèse 31, 20. Et Laban lui dit, mais qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé, littéralement? Pourquoi as-tu volé mon cœur? Et pourquoi ne m'as-tu pas averti? Pourquoi as-tu volé mon cœur? Pourquoi m'as-tu trompé? Et la même expression est dans le texte du récit de la trahison d'Absalom. Ça, c'est dans le livre de Samuel. Absalom, fils de David, et il dit gagner le cœur. Il gagnait le cœur des gens d'Israël. Comment il faisait? Eh bien, il allait au procès. Il disait aux gens, « Oh, vous avez été mal jugés, vous. Oh là là, David, il est plus ce qu'il devrait être. » C'est un roi qui a vieilli. Moi, je suis jeune. Moi, si j'avais été roi, je vous aurais fait un bon procès. Hein. Vous auriez gagné votre procès. Hein. Donc, il gagnait le cœur des gens d'Israël par la tromperie. Hein, par la tromperie. Hein. Aujourd'hui, on parlerait de propagande. Hein. Donc, c'est une forme de propagande. On peut penser, bien sûr, en ces temps d'élection, aux promesses faites pendant les campagnes électorales, quelles qu'elles soient, surtout les campagnes nationales. Hein. Mais quand même, hein, on voit ce que les promesses valent après l'élection. Hein. De nos jours, la propagande accompagne aussi l'essor de toutes sortes de dictatures, de régimes d'oppression. Hein. Les dictatures se multiplient et se maintiennent en se servant des médias, hein, en répandant de fausses nouvelles. On ne va pas dire le terme anglais, vous le connaissez. Hein. Et toutes ces dictatures connaissent l'art de persuader en répandant de fausses nouvelles. Alors le vol du cœur, hein, le vol du cœur, la tromperie, cette forme de propagande ne se limite pas à la politique. Il existe aussi dans le monde de la publicité. Tous les jours, on vous vole votre cœur. Et on essaye de vous inciter à faire... On vous manipule, on va dire. La pub. Or, la publicité, ce n'est pas mauvais en soi. Le fabricant a besoin de faire connaître ses produits. Et le fabricant d'un bon produit a le droit d'en proclamer les mérites. Mais aujourd'hui, on passe, depuis longtemps, on passe la frontière entre une réclame, comme on disait avant, légitime, et une manipulation. Et nous sommes tous les jours volés, manipulés, dans ce sens. Deux cas simples et grossiers, tellement grossiers qu'on tombe tous dans le panneau. Mais ça marche toujours. On utilise, par exemple, l'image d'une jeune femme, en bonne santé, à côté d'une nouvelle voiture. On utilise l'image d'une grand-mère à côté d'un pot de confiture. Ouais, un troisième, allez. On utilise l'image d'un scientifique en blanc, ça inspire confiance, qui présente un shampoing ou un déodorant. On vous manipule. On nous manipule. Et il y a d'autres cas beaucoup plus subtils, mais c'est quand même la même chose. Et il faut aussi parler de la propagande religieuse. Venez chez moi, vous serez en bonne santé, vous deviendrez riche. C'est de la propagande. Et l'apôtre Paul a pris soin de dénoncer toutes ces manipulations dans la proclamation de la parole de Dieu. Il dit en 1 Thessaloniciens 2, 5, 6, par exemple, « Vous savez en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses envers personne. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. » Et il avertit Timothée contre ceux qui se sont égarés dans de vains discours. Timothée 1, 6. Seule la puissance de la grâce du Christ peut nous conduire dans la vérité sans idée de manipulation, de propagande et de tromperie. Alors on peut aussi voler Dieu, on peut voler de l'argent de différentes façons, on peut voler le temps, l'affection, on peut tromper quelqu'un. Par la propagande, par la manipulation, mais on peut aussi voler Dieu. Alors cette expression, elle nous est peut-être plus commune. On la trouve dans Malachie, qu'on a lu il n'y a pas si longtemps, il y a un an. Malachie 3:8. Un homme peut-il voler Dieu ? C'est une question. Vraiment, on connaît la réponse, logiquement. Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous me volez. Et puis vous demandez... Mais en quoi t'avons-nous volé ? Vous me volez lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Malachie, chapitre 3, verset 8. Dans l'Israël d'autrefois, donc, il y avait les dîmes et les offrandes. Les dîmes servaient, entre autres, à l'entretien du culte. C'était 10% des revenus. Et les offrandes, c'était des dons libres et volontaires. Dieu y avait droit. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de tarif. C'est bon de le rappeler. Il n'y a pas d'obligation. Mais on n'imagine pas un chrétien qui n'aurait pas à cœur de participer aux frais de culte, à l'évangélisation, à la mission, à l'aide humanitaire. Ça a été dit au moment des offrandes tout à l'heure. Si nous ne le faisons pas, hein, si nous ne le faisons pas proportionnellement aussi à nos ressources, hein, on peut se demander si on n'est pas en train de voler Dieu, hein, nous aussi. Alors, c'est vrai que parler de Dieu et récolter de l'argent, c'est parfois très rentable pour des gens sans scrupules dans certains endroits. Et il y a des mauvais exemples. Mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. La bonne réaction, c'est là où nous sommes, dans notre Église, et c'est ce que nous faisons ici, c'est de demander des comptes. C'est que les comptes soient connus et soient consultables. C'est de pouvoir vérifier les comptes, pouvoir d'exiger la transparence. On n'a pas besoin d'exiger, elle est réelle dans nos églises. Et donc, demander des comptes, vérifier, exiger la transparence, mais ne vous privez pas de la joie de donner pour Dieu. Voilà ce que nous devons dire aux chrétiens d'aujourd'hui. Alors, je termine par la forme positive du commandement. Et on en a déjà parlé, je ne serai pas long. Nous abordons donc avec cette idée de la joie de donner pour Dieu la dernière considération en rapport avec notre 8e commandement, sa forme positive. On l'a dit, travailler pour pouvoir donner, voilà la forme positive du commandement de Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, dit le commandement, ne commettras pas de vol, excusez-moi, dit le commandement. Et la forme positive, si, c'est travailler pour donner. Donner surtout, c'est la façon de nous libérer de l'esclavage de l'argent. Et Jésus a dit, on l'a dit tout à l'heure, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ne cherchez pas dans les évangiles. Oui, vous allez chercher dans la Bible, vous serez surpris de l'endroit où ça se trouve. Alors concluons. Peut-être vous vous reconnaissez, et je me reconnais aujourd'hui, coupable face au 8e commandement. Ce 8e commandement, j'avais peut-être dit, je ne suis pas coupable parce qu'on l'avait réservé à telle rubrique, à l'argent par exemple. Je n'ai pas volé. À voir. Mais on voit que ce commandement est beaucoup plus large. Donc on se reconnaît peut-être coupable face au 8e commandement. La parole de Dieu nous dit que s'en prendre à l'homme, c'est aussi une faute contre Dieu. Si on a volé quelqu'un, si on a volé quelque chose à quelqu'un, on a volé Dieu aussi, c'est une faute contre Dieu, nous sommes coupables envers Dieu. Alors la Bible dit aussi que la loi de Moïse, par exemple, exigeait la restitution du bien volé, puis le versement d'une indemnité en guise de dommages et intérêts. Zachée a repris cette idée. Zachée, le percepteur véreux, eh bien, s'est repenti et il a proposé à ceux qui l'auraient lésé 4 fois la somme perçue à tort. Donc, ça nous rappelle que quand nous demandons pardon à Dieu, c'est ce qu'on doit faire parce qu'on est coupable envers Dieu. Eh bien, on ne doit pas oublier la faute qu'on a commise envers notre prochain. Et on doit demander à Dieu aussi de quelle façon on pourrait réparer le mal qu'on a fait à notre prochain. Et la parole de Dieu nous donne quelques pistes dans ce domaine. Alors, la bonne question, et je termine. Qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Dans ma vie, qu'est-ce qui changerait dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qui changerait dans ma vie de tous les jours si je tenais plus compte du 8e commandement, tu ne commettras pas de vol? Voilà, je vous laisse avec cette question. Que Dieu nous soit en aide. Amen.